When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une nouvelle imposture de l'histoire. Une femme dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et qui a radicalement changé d'identité. Mais pour quelle raison ? Encore une arnaque sordide, un mensonge pour abuser son entourage ou pour fuir la justice ? Eh bien, figurez-vous que rien de tout ça. Vous allez voir, ses motifs étaient bien plus compréhensibles.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Nous sommes à Almondsbury, en Angleterre. C'est le soir du jeudi 3 avril 1817 quand le cordonnier du village entend frapper à sa porte. C'est une jeune femme étrangement vêtue qu'il n'a jamais vue de sa vie et qui parle une langue absolument inconnue. Le cordonnier décide de l'emmener au curé de la paroisse qui, à son tour, la confie au magistrat du comté, Samuel Worrall. En effet, le majordome de Worrall est grec et il a une compréhension basique des langues du Moyen-Orient. Mais même lui ne comprend rien au discours de l'inconnu. Il ne saisit qu'une chose, l'étrangère se prénomme Carabou. Et elle semble avoir un intérêt pour l'imagerie chinoise. Comme on l'invite à rester pour la nuit, elle insiste pour dormir directement au sol. Le magistrat se dit alors qu'il a affaire à une mendiante un peu larguée. Il l'emmène à Bristol, où elle sera jugée pour vagabondage et finira internée au St. Peter's Hospital. Eh oui, en Angleterre, au début du 19e siècle, vagabonder, c'est un délit. C'est bien pratique pour Worrall, qui a pas mal envie de se débarrasser de Carabou, qui lui prend un peu la tête. Mais pendant son internement, Carabou rencontre Manuel Enesso, un marin portugais. Et là, miracle, il comprend tout ce qu'elle dit et peut enfin révéler son identité au monde. En effet, on n'a pas affaire à une mendiante, mais à Dame Carabou, princesse de l'île de Javazou. Elle vient d'un royaume exotique et lointain situé aux confins de l'océan Indien. Horrifié par son erreur, Samuel Worrall se dépêche de récupérer Carabou et ce chevalier au grand cœur va remuer ciel et terre pour la ramener chez elle. Quoiqu'en fait, pas vraiment. Ça serait quand même vachement bien de profiter de l'aubaine pour faire un truc très à la mode, à savoir utiliser cette femme exotique comme trophée, à exhiber à la haute société du patelin. Pendant plus de 10 semaines, Carabou devient alors la favorite des dignitaires locaux. L'un de ses nombreux visiteurs, qui a beaucoup voyagé dans les Indes orientales, parvient à converser avec elle en langue des signes. Et il affirme que son histoire est extraordinaire. La princesse a été capturée par des pirates de l'océan Indien et c'est seulement après un long voyage en arrivant au canal de Bristol qu'elle a trouvé la force de sauter par-dessus bord pour le plus grand bonheur du petit cordonnier d'Almondsbury. D'ailleurs, ce récit est soutenu par les talents de Carabou. Elle écrit de nombreuses lettres dans sa langue que personne ne comprend, mais elle a aussi l'habitude de tirer à l'arc, de nager entièrement nue dans un lac et de prier son dieu inconnu, Allah Tala. Une variante de Allah Ta'ala, Allah l'exalté, l'un des noms de Dieu dans l'islam. Forcément, la presse s'empare du phénomène. Des articles de journaux racontent ses aventures et suscitent un intérêt jusqu'au niveau national. Et ça, ça attire encore plus de spécialistes du sujet. C'est comme ça que le docteur Wilkinson a l'idée d'utiliser la Pantographia d'Edmund Fry, une encyclopédie de 1799 qui prétend contenir tous les alphabets du monde connu. Grâce à ça, Wilkinson est formel, il a identifié son écriture et le suspense est à son comble. Dans la foulée, on offre à Carabou des vêtements exotiques et on peint même son portrait qui est reproduit dans les journaux locaux. Et ça, c'était la boulette qu'il fallait pas faire. Car aussitôt, Madame Neal, une modeste propriétaire de pension, reconnaît derrière Carabou les traits de Mary Wilcox. Pas du tout une princesse des Indes, mais simplement la fille du cordonnier de Wisridge. Alors, me demandez pas pourquoi cette histoire déborde de cordonniers, hein, mais en tout cas, celui-ci vit à tout juste 100 petits kilomètres d'Almondsbury. En réalité, Mary a simplement quitté son domicile et a voyagé dans toute l'Angleterre. À la place de pirates kidnappeurs, elle a vécu au sein d'un groupe de gitans. C'est en s'inspirant d'eux qu'elle inventa sa langue fictive, qui mélangeait des mots imaginaires et du vocabulaire bien réel tiré de la langue des Roms. Et tout le reste, c'est que de la fiction. Évidemment, le scandale éclate, la famille Warhol est humiliée, ce qui ne les empêche pas d'avoir un peu pitié de la pauvre Mary. Même si elle s'est bien foutue d'eux, ils s'arrangent pour qu'elle embarque pour Philadelphie, et finalement, elle va y avoir droit à son grand voyage maritime. Aux États-Unis, Mary reprend son personnage de Carabou, mais sans arnaque cette fois-ci. Elle en fait un rôle pour la scène. Un peu comme tous ces magiciens qui prétendaient venir de la lointaine Chine, du mystérieux Japon ou des exotiques îles australes. C'était amusant, mais tout le monde se doutait que c'était pour le show. Hélas, Mary n'a pas beaucoup de succès, elle rentre donc en Angleterre en 1824 et donne quelques représentations à New Bond Street à Londres. Mais encore une fois, sans faire d'étincelles, et on finit donc par perdre sa trace. Et voilà, c'est la fin de la véritable Mary Wilcox, celle qui a existé en chair et en os. Enfin, jusqu'à ce qu'un cinéaste s'y intéresse. Car en 1994, Michael Austin découvre cette anecdote et l'utilise comme base pour son film Princesse Carabou. Et on comprend pourquoi elle fascine encore plusieurs historiens, dont Brian Houghton. Je le cite, « À une époque où les femmes étaient des citoyennes de seconde classe et où les femmes de la classe ouvrière n'avaient pratiquement aucun droit, Mary Wilcox a réussi à sortir de sa classe. » Finalement, elle est entrée dans la haute société par la petite porte et elle a battu le système à son propre jeu. Alors pour ça, respect. Merci à Kieran Henslow pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire. Je le lirai avec plaisir.